Bonsoir, bienvenue dans La Cour des Grands, l'émission francophone qui s'adresse aux parents, mais pas uniquement. Ici Estelle, heureuse d'être dans les studios de Choc FM avec une équipe de choc. Et je vais les laisser se présenter tout seuls.
Bonjour, moi c'est Diana, enseignante. Je vous promets de vous dire la vérité, rien que la vérité.
Bonsoir, moi c'est Serge et je serai le papa de la bande qui va vous donner tous les petits trucs pour gérer comme un chef le rôle de papa. Mes compétences ? J'ai 4 enfants.
Bonsoir, c'est Madigan et j'apporterai un peu de lumière à vos pensées.
Bienvenue dans la cour des grands sur les ondes de Choc FM 105.1, la seule radio communautaire de Toronto, la seule radio francophone communautaire de Toronto. Bonsoir ma chère Estelle.
Bonsoir Serge, tu es très en forme ce soir.
Oui, merci beaucoup, j'essaie de faire de mon mieux. On est de retour sur Choc FM, on est content. Et bonsoir à tous nos chers auditeurs qui nous écoutent en grand nombre ce soir. Ce soir en fait on vous a contacté une émission spéciale, très spéciale, car on va parler de l'éducation au Maroc. Et c'est pour ça que je pense qu'on a beaucoup d'éditeurs. On est très content de vous entendre et que vous nous entendez surtout. Alors pourquoi le Maroc ? Estelle, j'ai l'impression que tu vas me faire saliver et me faire goûter des spécialités culinaires marocaines, je sais pas, le tagine, le couscous, les pâtisseries marocaines, les loukoums, le thé à la menthe.
Oh là 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 là, mais pas du tout.
Mais j'arrête alors.
Non, alors je sais, hein, dès qu'on parle de Maroc, c'est les images qui nous viennent en premier, des spécialités culinaires, et c'est vrai qu'on mange très très bien, et c'est une des richesses de leur culture. Mais ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir, c'était plutôt mon expérience de volontariat dans des programmes éducatifs marocains.
Oh, d'accord, t'es partie au Maroc, ma chère Estelle.
Oui, pendant 4 semaines, et j'ai eu la chance d'avoir vraiment une expérience très riche pédagogiquement. Et si je suis partie, alors ce n'est pas uniquement
pour
le plaisir culinaire, mais pour une multitude de raisons et principalement parce que le Maroc, c'est un pays francophone, comme le Canada. Et puis, sa francophonie, elle est liée à son passé d'anciennes colonies françaises, comme le Canada. Et je trouvais cela très intéressant de pouvoir comparer les deux systèmes éducatifs et puis notamment concernant l'apprentissage du français.
Ah, j'ai hâte d'entendre ça. Alors donc tu dis on parle le français au Maroc, mais le français n'est pas une des langues officielles là-bas ?
Non, pas du tout. Enfin, ça l'a été, t'as raison, pendant le protectorat. Mais c'est ça qui était très intéressant quand je suis partie, c'était d'étudier, de voir comment cette langue, le français, avait pu continuer à être conservée, son usage, son enseignement à l'école.
D'accord.
Alors même que c'était plus une langue officielle et qu'il existe une multitude de parlés au Maroc qui, elles, sont des langues issues de la culture et puis de l'identité marocaine.
Comment ça, c'est du patois, tu veux dire, ou des langues de tribu ? Est-ce que des plusieurs langues officielles ?
Alors oui, c'est compliqué, c'est très compliqué. Les Marocains, ce sont des vrais polyglottes. Alors, pour essayer de te faire simple, il y a déjà les langues nationales, dont l'arabe, ce qui est la langue principalement parlée.
Ouais.
Mais l'arabe comporte plusieurs variantes. Il y a l'arabe dite classique, qui est la langue littéraire par excellence, donc utilisée dans les livres, par les poètes, par les grands auteurs.
Ouais.
Tu as l'arabe dialectal marocain, qui est le darija. Alors lui, il est parlé dans la rue. Et puis tu as l'arabe standard moderne qui est celui des magazines, tu vois, qui est plutôt des revues, qui est moins compliqué que l'arabe littéraire et qui est quand même plus élaboré que l'arabe parlé, le patois de la rue.
De la rue.
Et donc à côté de ça, tu as encore d'autres dialectes régionaux qui notamment l'amazigh qui a 3 variantes régionales, le chleu qui est parlé beaucoup à Marrakech dans les grandes villes comme Casablanca et Rabat, mais qui à l'origine était parlé surtout par les peuples autochtones, enfin les peuples berbères qui vivent dans le haut atlas marocain.
D'accord.
D'ailleurs, ils n'aiment pas qu'on les appelle les peuples berbères, hein. Ils préfèrent qu'on les appelle les amazirs.
Ok, c'est plus joli, moi je trouve d'ailleurs.
Ouais. T'as le tamazir aussi, qui lui est parlé dans le Maroc central, et puis t'as le rifin qui est forcément parlé dans le rif. Et ensuite, à côté de ces langues, qui sont donc l'arabe et l'amazigh, qui sont les 2 langues officielles, parce que depuis 2011, en fait, la constitution marocaine a reconnu dans son article 5 ces 2 langues-là, l'arabe et l'amazigh. Mais à côté, tu as plein de langues étrangères qui ont été léguées par l'histoire coloniale, notamment le français, donc hein, au premier rang. Et puis, tu as aussi un petit peu, dans une moindre mesure, l'espagnol. Et à côté de ces langues...
Oui, c'est proche de l'Espagne, hein, pour ceux qui ne savent pas.
C'est pour ça. Et puis, l'histoire coloniale aussi. Et à côté donc de ces langues issues un petit peu de leur passé historique, tu as aussi toutes les langues qui sont enseignées à l'école, dont l'anglais, qui a fait son émergence parce que c'est important de savoir parler anglais. Et puis le chinois, parce qu'ils ont beaucoup de contacts économiques avec la Chine. C'est quand même un des pays où les Marocains peuvent se déplacer sans visa. Et donc pour eux, ça reste deux langues importantes à connaître. Et à côté de ça, tu parles aussi beaucoup hébreu au Maroc, parce qu'il y a une grosse communauté juive.
Ah oui, bien sûr.
Donc tu vois, ça fait énormément de langues.
Ah oui, mais ça a l'air super compliqué en fait. Mais alors, quand est-ce qu'ils parlent français réellement? Parce que face à la richesse de ce paysage linguistique, c'est quoi la place réelle du français?
Alors c'est une très bonne question, effectivement.
Je te remercie.
Eh ben le français, lui, il est vraiment pratiqué souvent par l'élite urbaine. Alors ça reste aussi dans les médias écrits, audiovisuels, mais moins, si tu remarques, par les jeunes générations. La presse électronique, par exemple, c'est plutôt en arabe ou alors un petit peu en anglais. Mais tout ce qui est ou alors pour le français, il faut que ça reste vraiment un côté beaucoup plus restreint, le mode des affaires, la littérature marocaine d'expression française, le marché du travail. Et aime beaucoup le français, c'est très apprécié d'être à la fois de parler l'arabe et le français.
Okay,
et puis tu vois, alors si pour ici à Toronto, pour nos jeunes, parler français c'est pas forcément cool, ils préfèrent souvent parler l'anglais, ben là-bas on pourrait dire que parler français c'est un peu snob.
D'accord,
parce
okay,
que c'est les urbains, c'est un peu l'élite, voilà.
Je comprends. Mais alors une petite question, il y a une grosse communauté marocaine ici à Toronto, la plupart parlent français, donc ils font partie de cette classe sociale, entre guillemets, ou c'est juste le fait d'être ici et qu'ils se retrouvent entre Marocains, puis finalement ils ont parlé français?
Alors, ça dépend l'âge aussi. Parce que comme je te disais, c'est quand même assez récent, c'est un passé assez récent. Donc le français était vraiment utilisé dans les administrations. Tout dépend aussi, voilà, le cursus scolaire qu'ils ont eu. Après, il y a des gens qui sont pas forcément issus d'une classe aisée qui parlent le français parce qu'ils ont été en contact avec la population francophone.
Ouais, c'est ça.
Donc, et je pense que par contre, quand ils se retrouvent au Canada, enfin j'imagine, peut-être qu'ils parlent plus facilement amazigh entre eux ou le
Dévija.
Ce serait intéressant de pouvoir savoir effectivement quelle langue ils parlent.
Excellent.
Mais sûrement que la raison pour laquelle ils sont venus au Canada, c'est parce qu'on parlait français.
Oui, j'imagine. Eh ben moi, je sais pas si je suis cool ou si je suis snob quand je parle français au micro, mais la musique qu'on passe en général sur Choc FM, elle est super cool. Alors, on va faire une petite pause musicale et on vous revient tout de suite après pour qu'Estelle nous en dise un peu plus sur son expérience au Maroc, n'est-ce pas, ma chère Estelle?
Oui, et puis je te parlerai justement d'un beau projet d'échange culturel, en parlant de chansons, que j'ai pu mettre en place là-bas avec des jeunes adolescents que je salue ce soir. Et puis, je t'en dirai un petit peu plus juste après la pause.
Gros suspense, à tout à l'heure. On est de retour dans les studios de Choc FM, votre radio francophone communautaire. Et justement, en parlant de francophone et de francophonie, on a abordé avec cette chère Estelle, qui est revenue du Maroc toute bronzée, la place du français au Maroc, et plus particulièrement dans le système éducatif marocain, n'est-ce pas Estelle?
Alors oui, hein, avant notre coupure musicale, tu me demandais quelle était la place réservée aux français dans la société marocaine, étant donné qu'il coexistait de nombreuses langues parlées dans ce pays. Mais je voulais quand même préciser, parce que j'avais oublié de te le dire, qu'en février de l'année dernière... Le Conseil des ministres marocains, présidé par le roi Mohamed VI, a pris la décision de réintroduire le français dans l'enseignement public.
Oh, donc en plus des autres langues dont on parlait tout à l'heure, l'anglais, l'allemand, tout ça, et le chinois, là.
Oui, voilà. Et puis là, c'est même beaucoup plus, une plus grosse part qui lui est accordée, parce que toutes les matières scientifiques sont désormais dispensées en français. Et puis cette langue, le français, elle est enseignée à partir de la première année de l'école primaire. Et aussi, ils ont décidé d'introduire l'anglais de manière précoce. Donc, c'était un gros changement face à la politique d'arabisation, si tu veux.
Et est-ce que c'est une vraie, comment dire, réintroduction? C'est-à-dire, est-ce que c'est comme les anglophones qui apprennent le français ici et qui savent rien du tout du français, ou les Marocains connaissent quand même le français et en fait, on va les aider à apprendre à lire et à écrire parce que le parler, ils le savent déjà entre guillemets?
Alors, ça, c'est la vraie question. Bravo. Non, mais vraiment, parce que ce qu'on se pose au Maroc, c'est: est-ce que l'enseignement que reçoivent nos enfants aujourd'hui dans les écoles publiques est capable de leur garantir leur avenir? Donc, est-ce que le français qu'on a enseigné, est-ce que c'est un simple parler de la rue, effectivement, ou est-ce que ça te permet vraiment de faire des études, d'aller à l'étranger? Et puis, je ne sais pas si tu sais, mais en fait, en Afrique, le français, ça reste vraiment un atout sur le marché du travail, bien qu'il soit concurrencé par l'anglais.
Beaucoup de pays francophones, effectivement, j'imagine.
Donc, eux, ils ont pensé que cette réintroduction du français allait forcément permettre aux Marocains d'améliorer leur système éducatif.
Le français qui améliore le système éducatif, je comprends pas.
Alors oui, parce que effectivement.
Parce que c'est pas un système très performant déjà.
Alors, eh ben pas forcément d'après les classements internationaux. Par exemple, pour l'économiste marocain Youssef Saadani, qui a conduit en fait une étude sur cette réforme de réintroduire le français dans le système marocain depuis 3 ans, il dit que tous les indicateurs disponibles relèvent que la qualité de l'éducation au Maroc est inférieure à la moyenne des pays pauvres d'Afrique subsaharienne.
Ah oui. Oh.
Ouais, avec 79% d'élèves âgés de 10 ans ne maîtrisant pas les bases de la lecture. Donc, et depuis 2000, cette situation, elle ne fait que de s'aggraver. Donc, si tu ajoutes en plus que l'International Association for the Evaluation of Education Achievement, c'est une organisation internationale indépendante d'évaluation des systèmes éducatifs, que d'après eux, le Maroc se situe à la 48e place sur 52 pays évalués, notamment concernant l'enseignement des mathématiques en quatrième année, ou si tu fais état encore du rapport de l'UNESCO de 2014 qui dit que malgré des progrès remarquables, le Royaume du Maroc fait partie des pays qui sont très loin de leurs objectifs qu'ils avaient fixés lors de la conférence mondiale de l'éducation pour tous en 90, effectivement le système scolaire marocain est plutôt considéré comme l'un des plus faibles d'Afrique et puis du monde.
Mais c'est bien d'évaluer et de mettre des positionnements comme ça, mais c'est quoi le problème en fait? Pourquoi ces manquements? Est-ce que c'est des financements? C'est quoi?
Alors, c'est pas vraiment les financements. C'est vrai que bon, les écoles publiques, ça manque toujours d'argent. Hein. Mais quand tu regardes les moyens qui ont été alloués au secteur éducatif par le budget de l'État marocain et les aides en plus extérieures qui leur sont apportées, on peut pas dire que ce soit le manque de financement qui soit la raison de ce déclin du niveau d'excellence du système éducatif marocain. En fait, selon les données de la Banque mondiale en 2013, l'éducation au Maroc représentait 6,3% du PIB. En comparaison avec la France, si tu veux, en France c'est que 5,5 et au Canada c'est que 5,3. Wow. Donc il y a vraiment des moyens qui leur sont donnés.
Ouais.
Il y avait le projet de loi de finances de 2016, il prévoit un budget de 45,8 milliards de dirhams. Donc si tu veux, ça représente 4,5 milliards d'euros. Donc c'est énorme pour.
Ouais, c'est quand même considérable, mais alors donc c'est quoi le problème?
C'est les méthodes pédagogiques, et c'est pour ça qu'ils essayent de réintroduire le français en pensant que non seulement ça peut être une arme au niveau du marché du travail, mais peut-être qu'on peut aussi faire évoluer les méthodes pédagogiques. En fait, les enseignants, ils ont un peu tendance à reproduire des logiques qui consistent à apprendre sans réfléchir et comprendre, mais plutôt à absorber et mémoriser sans s'interroger.
C'est un peu comme ça que j'étais éduqué moi à mon époque.
C'est ça, c'est un peu l'éducation traditionnelle où tu apprenais les choses par cœur comme les tables de multiplication. En fait, ils ont un peu cette habitude là par l'apprentissage du Coran où tu sais tu dois lire et apprendre des passages entiers, et c'est un petit peu la même méthodologie. Et puis les élèves ne sont pas du tout encouragés à s'exprimer, à débattre, à communiquer, à se questionner. C'est pas que à se remettre en question, tout ça c'est difficile pour eux. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà énormément d'élèves dans une seule classe. Donc imagine si tu commences à lancer un débat, c'est un peu difficile déjà pour chacun de s'exprimer. Oui. Et puis, c'est pas dans leur tradition. Hein, les méthodes d'enseignement ne tiennent pas compte de la pédagogie moderne. Elles ont très peu évolué. Et en fait, maintenant, le problème, c'est qu'on fabrique des têtes bien remplies, mais qu'on les fait pas réfléchir. On ne développe pas l'esprit critique.
Donc en fait, c'est surtout un problème de méthode d'apprentissage finalement.
Oui, et puis plus globalement aussi de formation des enseignants.
Oui.
Bon, attention, hein, moi j'ai quand même eu la chance de connaître des enseignants très très bien formés, et puis notamment un formateur de jeunes enseignants, Monsieur Saadouni, qui était très performant, qui reproduisait au contraire, essayait de faire évoluer ses méthodes pédagogiques. Donc il y a quand même des exceptions, et ils sont quand même aussi en train d'essayer de faire évoluer les choses. Mais en général, dans l'enseignement public, les méthodes pédagogique, hein, elle repose encore sur la répétition et puis sur l'autorité plutôt que sur la découverte, le sens critique ou alors l'autorégulation. Tu vois, c'est vraiment, tout est dirigé par le maître. Le maître sait et les élèves écoutent.
Mais tu parlais effectivement de l'apprentissage du Coran. Ça vient uniquement de là, ces méthodes pédagogiques?
Alors oui, il y a beaucoup. Ça vient beaucoup effectivement des écoles coraniques. C'est ce qui explique, enfin c'est ce que dit en tout cas, et ce qui explique le sociolinguiste Gilbert Grand-Guillaume.
Pas facile à dire ça. Hein.
Oui, il est spécialiste du Maghreb. Et puis lui, il a expliqué que le modèle implicite est la mémorisation du Coran, qui constituait depuis des siècles la phase initiale de l'acquisition majeure de tout enseignement. Mais le problème, c'est que la mémorisation, c'est toujours à court terme. Donc pour vraiment enrichir ton vocabulaire, il faut l'utiliser, te l'approprier. Et puis, donc je te disais, hein, le problème, c'est la formation des enseignants. Et au Maroc, comme en Algérie, en fait, les enseignants, ils venaient beaucoup des colonies. C'est-à-dire, c'était souvent des Occidentaux qui venaient de France et puis qui formaient les gens sur place. Seulement après, ils sont partis. Et puis, par contre, ceux qui sont venus par la suite, ils ont été issus plutôt de toute cette politique d'arabisation. Et donc, le cursus scolaire, c'était pas du tout les mêmes méthodes pédagogiques.
D'accord. Mais en fait, tout à l'heure, j'ai mentionné le fait que ça ressemblait à mon éducation, moi, en France. Est-ce qu'il y avait des méthodes d'évaluation différentes aussi, il y a peut-être 20-25 ans, et donc ça remettait pas en cause l'éducation, et que maintenant, il y a quand on compare au Canada ou quand on compare ailleurs, c'est à cause de ces différences-là que des pays comme le Maroc se retrouvent à la fin, peut-être aussi?
Tu veux dire que c'est parce qu'on l'évalue sous notre regard à nous, d'occidentaux,
ou alors en 2017, je veux dire à la façon d'éduquer dans d'autres pays en 2017, parce que en années 80-90, si on avait évalué en France par exemple, c'était la même façon d'apprendre.
Oui, on aurait été tous au même niveau. Tu es d'accord? C'est, je suis complètement d'accord. C'est juste qu'ils ont pas fait cette révolution. Effectivement, au niveau de leur institution, et on explique cela parce que finalement, la formation des enseignants, si toi-même tu as connu cette façon d'être formé, il est très difficile pour toi d'évoluer. Oui. Nous, ce qu'on a réussi à faire au Canada, aux États-Unis, c'est de changer la formation des enseignants. Mais là, effectivement, l'élève est acquérant un faible niveau d'apprentissage ou de maîtrise, ne peut pas lui-même former correctement par la suite ses propres...
D'accord. Et toi, t'as pu constater tout ça sur le terrain? C'est pas que les sociolinguistiques qui disent ça?
Alors oui, moi j'ai vraiment eu la chance d'avoir des expériences très très différentes. Alors je peux parler par exemple de l'école maternelle. J'ai eu la chance de faire du bénévolat dans une école dans des quartiers un peu populaires, défavorisés de Marrakech. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en fait l'école, elle est devenue obligatoire pour tous les enfants marocains âgés de 6 à 13 ans que depuis 1963. Et donc elle n'est aussi obligatoire qu'à partir de 6 ans. Donc il n'y a pas de système préscolaire de maternelle au Maroc.
D'accord.
Donc la plupart des enfants, ils commencent l'école qu'à 6 ans. Donc moi j'ai eu la chance, si tu veux, déjà d'aller dans une école qui était un peu subventionnée, qui avait déjà une richesse par rapport aux écoles publiques, et donc le niveau était déjà meilleur, parce qu'ils apprenaient déjà le français, l'anglais, de façon quand même assez rigoureuse.
Oui, alors que ici, effectivement, si on a des auditeurs marocains qui nous écoutent, ça, on commence à 4 ans, en fait, l'école elle-même, on a aussi, du préscolaire, entre guillemets, avant, et des garderies où l'enfant va déjà être en milieu scolaire, entre guillemets.
Alors, ils peuvent avoir du préscolaire, mais ça va être des écoles privées assez riches, ou des écoles étrangères, enfin voilà. Et donc pour cause de finances, là, c'est vraiment ça, pour le coup, c'est souvent réservé aux personnes aisées, et ça correspond pas à la moyenne des Marocains. Mais concernant l'école maternelle, c'est vrai que j'ai pu constater qu'ils s'appuient beaucoup sur les chansons, sur la répétition, sur le fait de répéter les mêmes mots. Alors ce qui est très drôle, c'est que quand moi j'ai essayé d'introduire une chanson où tu variais, en fait tu changeais ta parole pour une situation donnée, les enfants, ils avaient beaucoup de mal, parce qu'eux, ils sont juste habitués à répéter. Alors, je te prends l'exemple concret. Au Maroc, il y a beaucoup de problèmes de circulation. C'est très dangereux de traverser la route. Donc, j'avais fait une chanson en indiquant que quand le feu était rouge, il fallait que les piétons traversent, alors que les voitures s'arrêtaient. Et quand le petit bonhomme était rouge, là, il fallait que les piétons s'arrêtent et que les voitures... Et donc, les paroles de la chanson changeaient suivant le début de ta chanson. Et ben, ils ont été complètement perdus. Donc, il a fallu qu'on fasse le jeu vraiment de façon kinesthésique, donc réelle, pour qu'ils puissent intégrer qu'il y avait un changement de chanson cohérent. Mais c'est très difficile pour eux. C'est-à-dire que tu leur poses une question en français, ils vont répéter la question. Ils ne vont pas essayer à répondre à la question, ils vont la répéter. Donc ça, c'est assez drôle.
Intéressant ça. Donc, on disait que tu as une expérience sur le terrain assez intéressante. Est-ce que tu peux un peu nous parler de type de projet auquel tu as participé?
Alors oui, donc celui-là, là, pour les écoles, c'était grâce donc non seulement à, parce que j'ai participé donc à tous ces projets grâce à l'association IVHQ, qui est International Volunteering Headquarter. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez aller même voir en ligne. Ça vous propose plusieurs programmes dans différents pays. Moi, j'ai choisi le Maroc parce que je voulais un programme francophone. Et j'ai eu la chance sur place après de travailler avec des associations locales, dont l'association LCIS de Aïcha Letmouni, dont on va avoir un témoignage juste après en deuxième partie. Donc c'est elle qui m'a permis d'avoir une expérience quand même extraordinaire d'être dans les villages berbères du Haut Atlas marocain. Je devrais dire Amazir, pardon.
Amazir, je vais le dire.
et en fait là c'est extraordinaire parce que tu es complètement en contact de la population locale. Tu dors chez eux, tu vis chez eux, tu vis avec eux. Et puis alors là, c'est l'éducation, elle se fait très simplement. C'est-à-dire que pour nous qui avons l'habitude de faire appel à des tas de technologies, à du matériel,
des stratégies, tout ça,
des matériels pédagogiques, là, il faut que tu te sers de ton environnement direct. C'est des enfants qui apprennent des choses directement en étant au contact de leur environnement, que ça soit la nature, que ça soit les champs, que ça soit
par l'expérience.
Ils ont une vie très très dure hein, quand même, parce qu'il fait très froid, crois-moi, tout en haut du Haut Atlas marocain, et ils ont une vie très simple. Ils sont en autosuffisance, ils cultivent leurs propres légumes. Et les écoles, du coup, ben c'est tous les enfants du village. Donc tu as une seule classe avec différents élèves de différents niveaux et âges. Mais ils sont très ouverts, très curieux. Alors les petites filles sont assez timides. Les garçons, si tu introduis des jeux de ballon, tout de suite ils viennent et le contact est très facile. Donc tu as quand même un moment pour t'acclimater. Mais c'est des enfants très affectueux, puis très réceptifs. Et par contre, en comparaison avec les écoles à Marrakech, la surpopulation dans les classes, hein, moi j'avais des classes de 48 élèves.
Oh là là, ouais.
Alors heureusement, les enseignantes ont une gestion de classe exemplaire et savent,
la police pratiquement, non?
Oui, mais t'es un peu obligé. Hein,
ouais, bien sûr, avec un nombre pareil.
Avec un nombre pareil, j'avoue que la discipline, oui, est différente du Canada. Et puis j'ai eu la chance également d'avoir une expérience avec l'association Abouab, qui est dirigée par Abderrahmin Saadouni, dont je t'ai parlé un petit peu avant. Et là, c'était très intéressant parce que c'était avec des adolescents et on a fait un échange avec le Canada. C'est-à-dire qu'on a pu, là, la connexion Internet était bien meilleure, parce qu'autant te dire que dans le Haut Atlas marocain, il faut que tu prennes une heure pour pouvoir avoir la moindre connexion. Et puis même dans les écoles à Marrakech, la connexion, c'est très difficile. Ouais. C'est pas quelque chose d'aussi fluide que chez nous.
Ils n'en ont pas forcément autant besoin que chez nous, finalement.
Parce qu'ils se débrouillent autrement, tu as raison. Puis c'est très chanté, c'est très scandé, c'est très rythmé, l'enseignement. Donc c'est pas du tout, comme je te disais...
Comme les versets du Coran, d'ailleurs, qui sont appris en chantant.
Exactement, c'est exactement la même méthodologie. Donc ils ont pas du tout cette approche de nous, forcément, de collaboration, par exemple. Les élèves ne collaborent rarement à faire un projet en commun. C'est pas eux qui ont l'autonomie de leur apprentissage, en tout cas. Et donc, c'est ça qui était intéressant, c'est que Monsieur Saadouni, on a voulu tester les élèves qui m'a gentiment offert de leur donner des cours pendant une semaine. Et on a monté ce projet avec Madame Dana Curas, de l'école Saint-Noël de Chabanel, ici à Toronto. Et on a donc fait un projet pédagogique culturel où on devait échanger des chansons. Donc c'est-à-dire que les élèves canadiens ont choisi des chansons, les élèves marocains ont choisi des chansons et ils ont dû expliquer leur choix. Alors autant te dire que les élèves canadiens ont été assez libres dans leur choix et puis se sont exprimés pleinement, mais ça a été beaucoup plus difficile pour mes élèves marocains. Alors les choix, ils arrivaient à les faire, mais l'autonomie. Et puis pour faire comprendre cette méthode pédagogique, si tu veux, les premiers retours que j'ai eu des autres enseignants, c'était oh là là, c'est très brouillon, c'est très bruyant, les élèves ne sont pas ordonnés, donc ça les a complètement paniqués. Et puis je leur ai expliqué, regardez, là on les a fait se faire filmer eux-mêmes, hein, et de présenter leurs chansons. Et la première fois, c'était effectivement très bruyant, on les entendait pas. Le lendemain, je suis revenue, je leur ai passé leur travail. Et je leur ai dit, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous trouvez? Est-ce que c'est un bon travail? Est-ce que vous êtes fiers de vous? Et là, ils ont commencé effectivement ce qu'on appelle chez nous l'autorégulation. Donc, ils ont réfléchi, ils ont développé leur sens critique. Est-ce que ce que j'ai fait était un bon travail? Comment je peux l'améliorer par moi-même? C'est ça l'autonomie qu'on essaye de faire. Et ils étaient vraiment en âge, hein, parce que c'était là, je te parle des ados, hein, donc de 13 à 16 ans. Mais il fallait voir comme ils n'étaient pas habitués à ce genre de méthodologie. Eux, ils sont habitués à une consigne, à répéter. Ils adorent lire, par exemple. Les scénettes, ils sont très forts pour les scénettes, ce genre de choses. Donc répéter un texte, et c'est très créatif aussi. Hein, ça peut être complètement différent. Mais ils n'ont pas cette notion qui maintenant nous on développe avec les nouvelles technologies de collaboration.
Mais est-ce que c'est pas très culturel? C'est-à-dire que nous, ça correspond à chez nous parce que c'est notre culture à nous, mais eux, on expliquait que tout à l'heure, ça allait améliorer l'enseignement de mettre le français, mais
c'est une question, c'est en question.
Et le but, c'est pas de faire comme au Canada, parce que nous, on est différents. La France, c'est pas du tout comme au Canada non plus. Ils ont chacun leur façon
Exactement,
de voir.
Exactement. Je pense qu'en fait, il y a des choses à prendre dans le système marocain qui sont très bonnes, dont cette richesse linguistique qu'il faut leur reconnaître. Oui. Tu vas parler dans la rue à n'importe quel Marocain, il peut te répondre en au moins 3-4 langues. C'est quand même extraordinaire. Non, il y a des choses à prendre effectivement du système marocain, notamment la gestion de classe pour les grands nombres. Je te dis, même cette façon de chanter, de scander est intéressante. C'est juste que nous, effectivement, au niveau des nouvelles technologies et de l'usage des nouvelles technologies, on a vraiment besoin de développer plutôt ton sens critique et la collaboration. Et ce qui était drôle et culturel, c'est qu'effectivement, ils n'arrivent pas à exprimer leurs sentiments. Par exemple, ils ont vraiment fait des choix de chansons d'amour, et c'était très difficile pour les Marocains de s'exprimer sur ça. Et c'était drôle de voir d'ailleurs comme ils pouvaient être gênés. J'ai pas pu, par exemple, diffuser aussi les images des clips. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable.
Tabou,
peu tabou.
C'est même illégal pratiquement, si je me trompe pas, ou pas autorisé dans l'école, c'est
en
ça.
En tout cas, ils estimaient que ils étaient un public peut-être trop jeune et trop sensible pour et c'est vrai que ça c'est culturel.
Ouais, bien sûr.
Je sais pas si c'est l'exemple que me donnait d'ailleurs l'enseignant. Il y avait une enseignante qui avait appelé un petit ourson Mohamed là-bas, mais qui l'avait fait de façon pédagogique, elle voulait juste donner un nom et puis que ça soit un peu la mascotte de la classe, et en fait, tu peux pas utiliser le nom du prophète. Et ça c'est vrai qu'il faut en tenir compte quand on vient nous en tant que gens d'Amérique du Nord, essayer d'enseigner des méthodes pédagogiques nouvelles. Je pense qu'il faut déjà d'une part être modeste par rapport à notre pédagogie, voir la faiblesse, et puis aussi pouvoir voir la richesse des autres pédagogies. Ça doit être un échange en fait.
Exactement.
Et c'est vraiment ça qui était intéressant, c'était de confronter les différences culturelles.
Et je vois dans beaucoup de nos écoles, on a appris beaucoup ça parce que nous on est un pays très très multiculturel, il y a beaucoup de cultures qui se mélangent dans nos écoles, surtout francophones, et les profs ont de plus en plus l'habitude d'avoir ces compétences interculturelles, et quand ils reçoivent effectivement des nouveaux élèves du Maroc, du Maghreb ou de l'Afrique, ils savent maintenant, depuis quelques années, ils ont été formés là-dessus, comment les gérer, entre guillemets,
les
comment leur parler.
Oui, c'est vrai que nous, on a tout un curriculum, le curriculum PANA, le curriculum ALF, tout ça qui permet d'accueillir les nouveaux arrivants, notamment les enfants, tu sais, qui sont issus de pays en guerre.
Oui, bien sûr.
Mais c'est vrai que, étant donné qu'il y a un tel paradoxe entre, si tu veux, la modernité de ces adolescents qui ont quand même les mêmes baskets que tes enfants, qui utilisent les iPhones, qui sont très techno, le Maroc est très très bon au niveau informatique. Ils sont à la pointe. Et donc c'est assez étonnant de voir cette contradiction de la modernité avec la tradition effectivement culturelle dans le contenu même, dans la façon de s'exprimer, exprimer son opinion ou ses sentiments. C'est pas quelque chose d'aiser ou en tout cas d'encourager, j'ai l'impression, dans la pédagogie, alors que nous on est très auto-centré sur l'intérêt de l'enfant, les besoins de l'enfant. On individualise à mort nos programmes, nos pédagogies, on a des plans individualisés d'enseignement, on essaie vraiment de coller plutôt aux envies des enfants.
Je comprends.
Alors que là ils sont encore dans la méthodologie où l'enfant doit écouter le maître et répondre aux questions du maître. En fait, on n'a pas du tout cette notion aussi d'apprentissage par les pairs. Tu sais, où c'est chaque élève peut apprendre à l'autre ou même à l'enseignant. Et ça, il n'y a pas de réciprocité entre élève et maître, par exemple. C'est pas un échange.
Mais bon, ça fait longtemps que je suis pas allé en France dans des écoles, mais j'ai l'impression que c'est encore comme ça en France aussi.
Oui, tout à fait. Non, c'est le système canadien qui est dans cette mouvance-là. Alors, est-ce que c'est plus évolué, moins évolué? Est-ce que c'est simplement une façon différente d'appréhender effectivement un système éducatif? C'est ça. Mais c'est ça qui était intéressant, c'était de confronter et puis de mettre des élèves qui étaient pas justement habitués à cette méthodologie, de les confronter à cette pédagogie et puis de voir le résultat. Qu'est-ce qui en ressortait? Est-ce que c'était quelque chose qu'on pouvait appliquer facilement? Est-ce que ça marchait? Est-ce que c'était vraiment si efficace? Et puis aussi de retirer, de voir qu'est-ce qui marchait chez eux aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'ils sont, ils ont quand même des méthodes pédagogiques qui peuvent être intéressantes pour
bien
nous
sûr
à appliquer.
Tout à fait, tout à fait. Mais je crois qu'on pourrait parler des heures et des heures là-dessus, ma chère Estelle. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on va recevoir une invitée spéciale directement du Maroc tout à l'heure dans notre deuxième partie. Donc on vous laisse une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après ça. De retour dans la cour des grands après cette superbe conversation avec notre chère Estelle. Ce soir, on a dit, c'était une émission spéciale éducation au Maroc que nous vous proposons. Alors, on a pu entendre le témoignage d'Estelle, comme j'ai dit, et on trouvait ça aussi très pertinent d'avoir la vision de personnes locales du Maroc sur le sujet. Alors, on a eu la chance de recueillir les impressions d'une des responsables de ces programmes éducatifs solidaires au Maroc. Donc, on va vous laisser avec Madame Aïcha Lemtouni.
L'émission est finie.
Les enfants sont couchés.
Bonne soirée. Amusez-vous bien.